Donc, très bien. Oui, cette journée, elle a lieu aussi parce qu'elle est, on l'a placée ce jour-là parce que demain, c'est la journée mondiale de l'eau sous l'égide de l'ONU. Donc vous avez une diapo ici qui est une infographie que j'ai prise sur Internet sur cette journée mondiale de l'eau. Et juste en guise de chapeau d'introduction, je voulais juste vous montrer quelques éléments clés qui sont indiqués sur cette diapositive, qui donnent quelques chiffres. Bon, c'est peut-être pas les plus importants, peut-être certains peuvent être discutés, mais en tout cas quelques chiffres qui mettent en évidence le problème de l'eau. Alors cette fois-ci au niveau mondial, on a beaucoup parlé d'eau au niveau local ce matin, et évidemment on en parlera un peu plus tard, mais en termes de pollution, les questionnements ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en termes d'impact non plus. Donc voilà les chiffres. 2,1 milliards de personnes ne disposent pas d'eau potable chez elles. Une école primaire sur quatre ne dispose pas d'eau potable. Chaque jour, plus de 700 enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée à cause d'une eau insalubre ou d'un manque d'assainissement au niveau mondial. 80% des personnes utilisant une eau impropre à la consommation et des sources non protégées vivent en milieu rural. Les femmes et les jeunes filles sont chargées de la collecte d'eau dans 8 ménages sur 10 n'ayant pas de point d'eau à domicile. Plus de 800 femmes meurent chaque jour de complications qui surviennent pendant la grossesse et l'accouchement. Pour les 68,5 millions de personnes qui ont été forcées à fuir leur foyer, l'accès à l'eau potable est très problématique. Près de 159 millions de personnes puisent de l'eau de boisson dans des eaux de surface, par exemple des mares ou des cours d'eau, donc évidemment avec des problèmes de santé. Près de 4 milliards de personnes ont été confrontées à de graves pénuries d'eau pendant au moins un mois au cours de l'année. 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées en raison de l'aggravation de la pénurie d'eau d'ici 2030. Et enfin, les personnes les plus fortunées ont en général accès à des services d'eau, d'assainissement, d'hygiène de haut niveau à des prix très bas, alors que les personnes pauvres paient des prix beaucoup plus élevés pour un service de qualité identique, voire inférieur. Donc voilà les éléments clés qui ont été mis en évidence cette année au cours de cette journée mondiale de l'eau. Certains points vont être discutés, on va revenir sur certaines choses dans la discussion qui suit. Dans l'introduction qu'a fait Thierry Watt ce matin, il a été aussi évoqué ces problèmes-là. Voilà, peut-être que dans la discussion, on pourra élargir, en tout cas géographiquement, la discussion qu'on a pu avoir ce matin et qui était un peu centrée sur Poitiers, la Vienne. On est monté jusqu'à Paris, pardon. Enfin, c'est la grande région, quoi. Voilà, pour ce petit chapeau pas très réjouissant, j'en suis désolé. Mais voilà, donc je vais vous laisser la parole. Oui, je vais vous transférer.
Voilà, alors donc moi je suis Marie-Laure Guillemot, responsable du service santé environnement du siège de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de la réglementation eau potable qu'on applique et puis aussi de la façon dont on essaie de gérer au mieux nos missions. Alors, peut-être d'abord pour vous expliquer un petit peu la mission de l'ARS par rapport à tout ça. Monsieur Barouki tout à l'heure a parlé de santé environnement. Alors au sein de l'ARS, il y a effectivement ce service santé environnementale avec des unités, des délégations départementales qui sont sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a en fait deux grands champs de mission au sein de l'ARS. Alors, pour nous, la santé environnementale, ça tourne autour de l'eau, des espaces clos et de l'environnement extérieur. Donc, c'est effectivement large pour ce qui est de l'environnement physique. Et donc deux grands types de missions, une mission qui concerne la surveillance des milieux et la gestion des risques sanitaires. Ça, c'est une mission un petit peu historique des services santé-environnement. Et puis se développe de plus en plus aussi la prévention et la promotion autour de la santé environnementale pour, au-delà des risques, aussi promouvoir un environnement favorable à la santé. et on verra que notamment la manière dont on essaie, nous, de s'emparer de la question de l'exposome et des populations les plus sensibles et les plus vulnérables, c'est des actions qu'on mène plutôt en termes de promotion de la santé, avec la promotion de bons gestes et puis un certain nombre d'actions qu'on sera peut-être amené à citer pendant notre échange. Voilà, alors si on rentre plus maintenant dans le détail de ce que sont les missions de l'ARS en matière d'eau d'alimentation, faut pas voir que le contrôle sanitaire. C'est vrai qu'il y a ces normes finales qui sont importantes, hein, puisque on base effectivement un certain nombre d'avis sanitaires dessus, mais la réglementation ne se contente pas de cette... du respect de ces normes. Il y a vraiment ce que l'OMS attend au travers du concept multibarrière, hein, pour assurer la qualité des eaux. Et il y a des procédures administratives autour notamment de l'autorisation des filières de traitement qui permettent aux services instructeurs de vraiment s'assurer de la qualité des matériaux employés, de l'adéquation du traitement avec la qualité de l'eau brute, autour des périmètres de protection des captages, qui sont aussi pour les pollutions accidentelles et ponctuelle une barrière intéressante. Il y a des inspections contrôles qui sont organisées. Donc je vous donnerai quelques éléments sur la gestion des non-conformités, sur la manière dont on le fait, et puis l'information des usagers, qui permet aussi que l'usager se protège vis-à-vis d'un certain nombre de risques. Et puis donc je vous parlerai aussi un petit peu du projet qu'on développe en termes de plus d'actions de prévention autour de la promotion des plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux, pour amener les producteurs, distributeurs d'eau à pouvoir assurer en permanence la qualité des eaux qu'ils délivrent aux consommateurs. Voilà, alors, très rapidement, avant de parler de la réglementation, vous dire que c'est vrai que c'est la même qualité qui est exigée au final au robinet du consommateur, mais qu'on part de ressources en eau qui sont très variées, avec des risques qui sont évidemment pas les mêmes. On peut fabriquer de l'eau potable à partir d'eau de surface, avec bien sûr des chaînes de traitement sophistiquées. On utilise aussi des nappes alluviales, donc, hein, qui sont en liaison avec une rivière et qui... aussi, qui présentent d'autres risques, des eaux karstiques dans certains domaines géologiques, avec dont notamment on en a en Nouvelle-Aquitaine, avec des circulations d'eau très rapides, et là un risque de pollution microbiologique par des matières en suspension directe. Et puis à côté de ça, on a aussi des eaux qui sont très bien protégées, notamment des eaux captives, très captives même, qui sont pratiquement indemnes de pollution. Donc, dire la qualité de l'eau potable dans l'absolu, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il y a ces différents types de ressources dont on essaie quand même un peu de tenir compte dans la réglementation. Alors là, c'est juste pour vous schématiser ce qui nous préoccupe, hein, au niveau de l'application de la réglementation sanitaire au niveau de l'ARS. Donc, on s'intéresse à l'environnement du captage. Après, à ce qui peut se passer au niveau du traitement, et puis jusqu'au robinet du consommateur, puisque depuis la directive de 98-83, vraiment la qualité de l'eau, ça va jusqu'au robinet du consommateur. Et donc, vous verrez tout à l'heure que notre contrôle sanitaire, il se situe sur ces points stratégiques, que ce soit captage, mise en production, et puis robinet du consommateur en fonction des paramètres recherchés. Alors, pour vous donner un petit peu un éclairage des acteurs et puis de la façon dont cette distribution d'eau est contrôlée et vérifiée, vous voyez qu'au niveau local, c'est ce qui est dans le Code de la santé, on appelle la PRPDE, la personne responsable de la production-distribution d'eau, donc qui est chargée de surveiller en permanence la qualité de l'eau qu'elle met à la disposition des usagers. L'ARS, pour le compte du préfet ou au nom de ses missions propres, assure donc un certain nombre de procédures et d'instructions de procédures administratives, et assure le contrôle sanitaire de ces eaux. Alors il y a d'autres acteurs, hein, qui interviennent et qui sont importants, notamment les hydrogéologues agréés qui justement définissent les périmètres de protection des captages, et puis le laboratoire agréé qui va être le laboratoire qui va réaliser l'ensemble des analyses du contrôle sanitaire. Au niveau national, le ministère de la Santé établit la politique sanitaire, hein, notamment au travers de décrets, d'arrêtés et de notes d'information, en s'appuyant sur l'expertise nationale alors de l'ANSES pour un certain nombre de polluants. Et puis pour des études épidémiaux, il fait parfois aussi appel à Santé publique France, de façon à avoir ces deux volets dans les recommandations qui peuvent être données. L'échelon européen, puisque la réglementation française inscrite dans le code de la santé vient en fait d'une directive européenne, et cette directive européenne d'ailleurs est en train d'être revue et va donner lieu prochainement à une nouvelle directive, et puis même mondiale, parce que l'Union européenne, pour établir les exigences de qualité, se base principalement sur les recommandations de l'OMS. Voilà, alors évaluation des risques, surtout après la présentation qu'on a eue, je vais être très très rapide. L'idée, c'est juste de vous dire que y a bien sûr la microbiologie d'abord, hein, ce qui est le risque qui reste fondamental pour l'eau potable. Alors pour apprécier ce risque, on a des germes tests de contamination fécale qui sont recherchés. Et puis après, sur les substances chimiques, y a deux grandes méthodes qui sont utilisées par l'OMS pour nous donner les normes. Une qui concerne les toxiques avec des doses sans effet, et puis les toxiques sans seuil qu'on a évoqué tout à l'heure un petit peu avec les CMR. Et puis bien sûr, c'est les éléments dont on dispose, mais il y a effectivement des réflexions au travers des problèmes d'effet cocktail qui ont été évoqués tout à l'heure aussi, et puis des perturbateurs endocriniens qui, c'est vrai, pour l'instant sont difficiles à prendre en compte avec les éléments dont on dispose. Alors, la réglementation. Donc, on a bien vu que dans l'eau, selon son origine, mais pas que, peut y avoir un nombre important de polluants. Alors, il y en a qui sont réglementés, puis je vais vous expliquer comment ça se passe pour ces polluants réglementés. Et puis, il y en a d'autres qui sont émergents et pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas de contrôle sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures barrières, hein, mais voilà. Donc, je vais essayer de séparer un peu les deux parce que c'est quelque chose qui est un petit peu différent dans la gestion. Donc, la réglementation des eaux potables, elle a bien sûr pour objectif de ne pas avoir de mortalité, d'avoir une morbidité la plus réduite possible. Et puis, autant que faire se peut, il faut qu'on ait des éléments d'évaluation de risque sur la relation qu'il y a entre la dose de produits qu'on trouve dans l'eau et puis l'effet sur la santé. Le champ d'application de cette réglementation, c'est bien sûr les eaux distribuées, mais aussi les eaux conditionnées. Et puis donc l'expression de la réglementation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des résultats en termes de limites et références de qualité, des obligations de moyens et puis des obligations d'expertise. Alors, les limites de qualité. En fait, il y a deux types de paramètres, hein, dans la réglementation. Il y a les limites de qualité, donc pour lesquelles il y a un lien, direct. Enfin, on se base sur une évaluation de risque sur la santé. Et puis des références de qualité qui sont plus des substances à rechercher parce qu'elles peuvent induire un risque, mais pas au premier degré. Alors, le nombre de paramètres au total, je crois qu'on a 54 paramètres. Alors, c'est à la fois beaucoup quand il faut payer les contrôles sanitaires et très peu par rapport à ce qu'on peut retrouver dans l'eau. Et voilà, on a en termes de paramètres microbiologiques, donc on recherche les Escherichia coli et les entérocoques, et puis les paramètres chimiques, vous voyez qu'on a une variété de paramètres recherchés. En ce qui concerne les références de qualité, on a 4 paramètres microbio, 21 paramètres chimiques, et puis des indicateurs aussi de radioactivité depuis peu. Donc, les fréquences de contrôle, alors ça, c'est les paramètres qu'on peut rechercher. Après, les fréquences de contrôle et les points de contrôle, ça s'organise de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on distingue des contrôles qui sont à faire à la ressource, comment dire, ne recherchant pas tout à fait les mêmes paramètres en ressources souterraines et en ressources superficielles. Après, au niveau des points de mise en distribution, on a deux types d'analyses, des analyses qui sont plus de routine, enfin qui sont pratiquées plus régulièrement, et puis d'autres qui sont moins fréquentes mais plus complètes. Et puis c'est un peu la même chose sur les réseaux de distribution. On a deux types d'analyses avec des paramètres qui sont, alors les paramètres microbiaux sont recherchés eux vraiment fréquemment, et puis les d'autres paramètres sont recherchés de façon plus espacée. Et après, les fréquences du contrôle sanitaire dépendent pour la ressource et la mise en distribution des débits de prélèvement, et puis pour les analyses en distribution de la, comment dire, du nombre de personnes alimentées. Alors j'ai fait un petit zoom sur les pesticides parce que bon, c'est un problème prégnant pour la région et pas que, et puis quelque chose. Enfin, c'est le paramètre pour lequel il y a des gestions de non-conformité qui sont nécessaires. Alors pour cela, on se base sur une instruction de la DGS qui date de 2010, qui, alors avec plusieurs éléments à signaler. Le premier, c'est que bien sûr, il faut un ciblage des molécules contrôlées. Il faut essayer de, comment dire, compte tenu de l'occupation des sols alentour, d'être au plus près de la liste de pesticides qui peut se retrouver. Que la réglementation prévoit bien à la fois une limite de qualité individuelle, mais aussi une limite de qualité pour la somme des pesticides, pour quelque part quand même aborder un peu cet effet cocktail. Et puis après, la gestion des dépassements se fait de la manière suivante. La valeur sanitaire est définie, qui est la Vmax, hein, est une valeur qui est définie par les instances d'expertise, mais ce n'est pas la valeur réglementaire. La valeur réglementaire, enfin, pour la plupart des molécules, est inférieure à cette valeur sanitaire max et est fixée à 0,1 microgramme par litre. Alors, voyez que quand... bien sûr, quand on ne dépasse pas ce 1 microgramme par litre, l'eau est conforme, il n'y a pas de question à se poser. Par contre, quand cette valeur réglementaire est dépassée, si c'est pendant moins de 30 jours sur l'année, on considère qu'il n'y a pas de risque pour la santé parce qu'on est en dessous de la valeur maximum, donc l'eau est distribuée. La population est informée, mais l'eau est distribuée. Si par contre cette non-conformité reste inférieure à la valeur maximale mais dure plus de 30 jours, à ce moment-là, il y a une procédure de dérogation qui fait l'objet d'un arrêté du préfet et qui peut définir soit des restrictions d'usage, soit des conditions d'utilisation, soit alors considérer, puisque c'est sur une période courte, que l'eau peut être bue malgré le fait qu'elle dépasse le 0,1 mais pas la valeur maximale. Et puis au-delà de cette valeur maximale, là, c'est des restrictions de consommation, considérant que l'eau ne doit pas être bu puisqu'elle dépasse la valeur sanitaire. En ce qui concerne les polluants émergents, alors c'est vrai que c'est une préoccupation sociétale, c'est aussi une préoccupation pour la communauté scientifique et puis pour les autorités sanitaires. Donc la réponse qui est apportée au niveau national, c'est de dire il faut faire des campagnes exploratoires. C'est pas quelque chose qui peut rentrer dans le contrôle sanitaire habituel, mais c'est une vraie question. Donc l'objectif de ces campagnes, c'est d'établir l'occurrence et les niveaux d'exposition des substances préoccupantes au plan sanitaire. Et puis surtout de disposer de données qui sont nécessaires à l'évaluation des risques pour anticiper des actions de surveillance et de gestion. Alors, il y a bien sûr, on a vu plus de 100 000 substances chimiques produites, donc il faut absolument une priorisation de ces substances. Et c'est ce que fait l'échelon national. Alors après, il y a toutes les questions de méthodologie d'analyse qui doivent être solides. Et là, c'est l'ANSES qui travaille cette question. La stratégie d'échantillonnage est réfléchie avec la DGS, l'ANSES et les ARS. Après, les prélèvements... Alors, stratégie d'échantillonnage, en général, ça couvre au moins... Enfin, environ au moins 20% de la population nationale pour que ça soit représentatif sans... pour autant couvrir toute la population avec souvent trois points par département, un qui permet d'être sur une grosse structure, un qui est plus aléatoire et puis un qui est plutôt choisi par l'ARS en fonction de sa connaissance locale. Donc ces prélèvements sont faits, les analyses sont réalisées soit au laboratoire national d'hydrologie de Nancy, soit dans l'ANSES, et puis après, c'est le comité d'experts eau qui d'expertise eau qui exploite et interprète ces résultats pour permettre après à la DGS de donner des instructions sur ces substances. Alors pour mémoire, j'ai mis un certain nombre de campagnes qui sont en cours ou qui ont été réalisées en suivant cette méthode eau. Et puis après, je vous ai fait un petit focus sur les autres eaux, puisque j'ai vu que dans les questionnements qui étaient posés, on s'interrogeait sur l'eau de pluie. Insister sur le fait que c'est vrai qu'il y a une réglementation qui encadre précisément l'usage de ces eaux de pluie, dans la mesure où il y a un risque important. Enfin, c'est des eaux qui sont contaminées, c'est des eaux qui ne sont pas potables, et il y a un risque de retour d'eau, donc qui risque, au-delà de l'habitation qui utilise ces eaux, de contaminer aussi le réseau public. Donc, il y a une possibilité pour certains usages, hein, mais toutefois, c'est vrai que les recommandations sont plutôt de réserver ces eaux pour les usages extérieurs à la maison. Et il y a également une interdiction d'utilisation de ces eaux dans les établissements de santé, les cabinets médicaux, les crèches, écoles maternelles et alimentaires. Voilà, et puis pour juste en finir, parce que je suis peut-être un peu trop longue, je suis désolée.
Non, ça va.
Voilà. Alors, pour, comme je vous le disais, il y a déjà dans la réglementation actuelle d'autres barrières et d'autres éléments que les normes de qualité, mais on se tourne de plus en plus, en suivant les recommandations de l'OMS, vers une logique vraiment de gestion globale au niveau des systèmes d'eau qui vont vraiment du bassin d'alimentation de l'eau jusqu'au robinet du consommateur. Et on promeut pour cela la mise en place de plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux, donc selon la méthodologie de l'OMS, tout ça pour permettre, sur un produit comme l'eau potable, hein, qui doit vraiment être disponible pour toutes les populations, y compris les plus vulnérables, et il y a aussi un enjeu de lutte contre les inégalités sociales de santé à ce niveau-là, parce que si on arrivait à une eau à deux vitesses, ce serait vraiment pas ce qu'on souhaite au niveau santé publique. Donc pour rendre ce produit fiable, il faut vraiment une gestion optimale à chaque étape de la filière de traitement, depuis la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Il faut que la qualité des intrants, alors de l'eau brute qui est utilisée, des produits de traitement et des matériaux de transport soient aussi parfaitement maîtrisés. Et puis il faut aussi qu'au niveau du management du service d'eau, les personnels soient à la fois formés et suivent des procédures qui soient bien décrites. Et puis il faut une surveillance qui soit adaptée à ces dangers identifiés. Donc juste pour vous dire que c'est ça, hein, c'est comme ça que l'OMS, dans ses nouvelles recommandations, alors 2004, mais surtout 2011, prévoit les choses en disant, bien sûr, on se fixe des objectifs d'ordre sanitaire, bien sûr, les autorités compétentes en France, l'ARS, surveillent, mais entre les deux, il y a donc nécessité d'avoir une démarche qui s'apparente à une démarche qualité, en tout cas une démarche, vraiment une boucle, une roue de progrès qui permette aux producteurs d'eau d'assurer la fiabilité de la qualité de son eau. Et vous voyez que c'est ça, c'est une démarche qualité. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, si vous avez des questions, on verra tout à l'heure. Mais pour vous dire que c'est une politique forte pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine et pour beaucoup d'autres ARS qui, dans le cadre de leur plan régional santé-environnement, déclinent des actions pour promouvoir ces plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux auprès des producteurs d'eau, et puis pour leur donner des outils. Alors, dans notre plan d'action, on a trois phases qui sont prévues, hein. D'abord, une acculturation des personnes responsables de la production distribution d'eau. On leur propose également des outils pour mettre en place cette démarche. Et puis après, il y aura un accompagnement quand tout ça sera en place. Et notamment, on a d'ores et déjà établi une plaquette d'information pour que vraiment ils adhèrent quelque part à cette démarche, hein, en expliquant bien quels sont les intérêts de cette démarche qui permet de prévenir, d'anticiper et d'agir. Et notamment, Alors c'est quelque chose sur toute la chaîne de traitement, mais notamment d'anticiper les effets qui peuvent résulter des changements climatiques, notamment des restrictions d'eau, et puis aussi qui leur permet de rationaliser leurs investissements sur des priorités de santé et pas simplement sur des priorités de changement patrimonial, quoi, hein, d'avoir cette dimension santé. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction pour vous expliquer un petit peu ce que fait l'ARS sur les eaux potables.
Merci. Donc on va passer tout de suite à la deuxième présentation, puis on fera une discussion générale après, comme ce matin.
Donc moi du coup je suis chercheuse en géographie politique à IRSTEA à Strasbourg et je travaille sur les relations entre sciences, techniques et gestion de l'eau. Alors là je vous propose de faire une esquisse en fait de l'histoire du suivi et de la prise en charge des pollutions dans l'eau par l'action publique en France. Alors ce petit détour il ne sera évidemment pas exhaustif compte tenu du temps imparti et puis il sera sûrement partiel et justement j'espère que ça ouvrira le débat. Et j'ai choisi de démarrer à la fin des années 1950 quand se négocie ce qui deviendra la loi sur l'eau de 1964 qui entre autres va créer les agences de l'eau. Dans un premier temps je reviendrai sur la manière dont a été saisie la pollution en amont et en aval de la loi sur l'eau de 1964. Et ensuite, je présenterai les bifurcations dont a fait l'objet la question de la pollution de l'eau à partir des années 1990, et surtout avec la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l'eau. Et là, je m'appuie pas mal sur les travaux d'une collègue, Gabrielle Boulot, parce que les miens ont traité de ces questions, mais de manière plus indirecte, parce que moi, j'ai plutôt travaillé sur les questions de gestion quantitative de l'eau, à la fois en France, en Espagne et à l'échelle globale. Et du coup, voilà, un peu ces affaires de construction sociale et politique de la pénurie d'eau et comment des dispositifs comme les indicateurs viennent à la fois nourrir les controverses et sont aussi le support de compromis qui vont contenir des éléments de science, mais aussi de compromis sociaux et politiques pour le partage de l'eau dans le sud-ouest de la France, entre les irrigants, EDF, etc. Et puis, j'ai travaillé aussi sur des questions de pollution, mais plutôt industrielles sur le Rhin. Alors, la loi sur l'eau et le système des agences, donc on va revenir un peu au 19e siècle. On peut schématiquement considérer que finalement au 19e siècle, on produit une dichotomie entre les rivières pures de l'amont et les rivières sales de l'aval. Et cette dichotomie, elle s'appuie finalement sur le choix des autorités et des industriels de rejeter les déchets industriels et urbains dans des rivières qui vont être sacrifiées au nom du développement économique et de la concurrence avec l'Allemagne, en particulier si on pense au Rhin. A été très aménagé et très pollué pendant cette période déjà. Les pollutions générées, du coup, à leur tour, elles conduisent finalement à se détourner des rivières et elles contribuent aussi, elles ne sont pas évidemment le seul facteur explicatif, mais à privilégier l'adduction d'eau potable à la maison. Mais il y a bien un usage qui ne peut se rabattre sur l'eau potable, c'est la pêche. Et donc tout au long du XXe siècle, les pêcheurs se plaignent de la pollution des rivières. Et dans les années 1950, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a presque 3 millions de pêcheurs qui payent une taxe. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ça pourrait peut-être sembler anecdotique, mais à cette époque-là, ils constituent une force politique qui n'est pas négligeable. Ils ont des relais parmi les élus. Et à ce moment-là aussi, les industriels bénéficient d'un assouplissement du droit pénal. Et donc, on a des plaintes des associations, des fédérations de pêche, auxquels le ministère de l'Agriculture ne donne pas vraiment suite. Et en 1959, ces associations de pêche, elles arrivent à court-circuiter le ministère, alors que De Gaulle a les pleins pouvoirs. Hein, on est en pleine guerre d'Algérie, il y a une période où, en fait, voilà, De Gaulle a les pleins pouvoirs, et du coup, ils obtiennent la reconnaissance du délit de pollution par ordonnance. Donc ça ne passe pas par le Parlement. Et donc là, quand même, ce changement législatif, il change la manière dont on va administrer la preuve et surtout qui a la charge d'administrer la preuve. Et donc ça veut dire des risques quand même de contentieux. Mais on ne peut pas expliquer que comme ça le fait que les pêcheurs aient été entendus, parce qu'ils râlaient quand même depuis un bon bout de temps. Et en fait, si leur Leurs craintes sont entendues, c'est parce qu'elles rejoignent alors celles des gestionnaires des services d'eau potable de ne plus pouvoir trouver de l'eau brute à potabiliser. Un cas, par exemple, qui circule pas mal dans les débats à l'Assemblée en préparation à la loi sur l'eau de 64, c'est le cas d'Arles, qui s'est retrouvé avec, en fait, sa station de potabilisation détruite pendant la guerre, qui, du coup, est allé chercher à s'approvisionner dans le Rhône et qui a beaucoup de problèmes, en fait, de qualité de l'eau qui est distribuée. Au-delà d'exemples d'Arles, donc du coup, on a quand même une préoccupation aussi des gestionnaires des services d'eau. Et on a aussi ce problème qui est reformulé par des ingénieurs au commissariat général au plan, qui sont en général des ingénieurs qui reviennent des colonies, en particulier d'Afrique du Nord, où ils ont été confrontés à des questions de pénurie et qui, du coup, vont retraduire ce problème en termes de risque de pénurie d'eau de bonne qualité. Et donc, quelque part, on a la valeur substantive du problème qui est plutôt portée par les pêcheurs autour de la mortalité piscicole qui va être traduite en une question plus instrumentale, c'est-à-dire de dire en période en fait, où on déploie ces 30 glorieuses ou ravageuses, je ne sais pas, ça dépend de la perspective, mais en tout cas, ces 30 glorieuses, eh bien, y a quand même l'idée de dire ce développement économique et urbain, il pourrait quand même être sérieusement mis à mal ou il ne pourrait pas advenir à cause de problèmes de qualité de l'eau. Et donc, du coup, la notion aussi d'externalité qui commence à être mise en avant. Et donc, il y a des solutions qui sont... avant d'aller dans les solutions, ce qu'il faut voir, c'est que donc, les élus qui sont responsables des services d'eau potable et les industriels aussi, donc à l'origine de nombreuses pollutions, ils cherchent à limiter les risques de contentieux suite à cette ordonnance de 59 et aussi le poids du financement de la dépollution. Et donc, par rapport à toute cette problématique, en fait, il y a des solutions qui sont proposées, les ingénieurs et la gestion par bassin, et les économistes et le modèle de l'écotaxe. Et donc, tout ça, ça va être très débattu. Et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve comme compromis dans la loi sur l'eau de 64? C'est bien un principe de redevance, mais qui s'éloigne quelque part du modèle de l'éco-taxe et qui renvoie plutôt à une notion d'épargne collective, puisqu'on est d'accord pour qu'il y ait une redevance à condition qu'elle serve aux investissements. Et l'État, comme les élus, refuse de donner la maîtrise d'ouvrage, en fait, des ouvrages qui vont être financés aux organismes de bassin. À la différence, par exemple, des confédérations hydrographiques en Espagne. Donc, à cette période-là, dans ce système qui se déploie, on va mettre en visibilité des pollutions. Et cette mise en visibilité pour l'action publique, elle est un enjeu à la fois de police de l'eau, mais aussi de planification et de répartition de l'effort environnemental entre usagers. Et donc, les agences, finalement, ça va être un espace de construction d'espaces d'équivalence à partir d'inventaires, de réseaux de mesures, d'indicateurs, qui font finalement circonscrire le problème aux dégradations sur lesquelles on peut agir. Et ce sont d'abord essentiellement les usagers domestiques et industriels qui payent des redevances, qui en retour permettent de financer en gros des stations d'épuration et des ouvrages qui permettent de maintenir la capacité auto-épuratoire ou de dilution des rivières. Donc on a une forme de commensuration, de mise en équivalence entre enjeux qualitatifs et quantitatifs autour du financement de stations de traitement, d'un côté, et par exemple, d'ouvrages de soutien d'étiage, pour le dire vite. Donc, les inventaires de la pollution, la construction d'indicateurs de la qualité des eaux, on peut les voir comme des opérations à la fois scientifiques et politiques qui cherchent à faire tenir ensemble des données et des enjeux hétérogènes, construisent des compromis, produisent de nouvelles normes, mais aussi recyclent d'anciennes pratiques. Et donc, à l'amont de la loi de 64, en fait, la focale, elle est très fortement sur la question de l'oxygénation des eaux. Parce que c'est ce qui est disponible au début des années 60, qui a été déjà beaucoup investi, autour de la notion d'équivalent habitant, c'est-à-dire la quantité de pollution qui est émise par personne et par jour, pour laquelle on a déjà des données, et qui sont associées à des données de coûts de traitement, depuis au moins une trentaine d'années. Et cette métrique, du coup, elle permet d'élaborer des bilans d'émissions, de dimensionner des ouvrages de traitement des eaux usées et de quantifier les flux de pollution résiduels. Elle s'appuie sur un type de pollution particulière, c'est-à-dire la pollution qui est biodégradable, et donc qui est le fait plutôt des espaces urbains et des industries agroalimentaires, et sur un critère spécifique qui est la DBO5, donc la demande biochimique en oxygène à 5 jours, c'est-à-dire la consommation de dioxygène par voie biologique. Et donc ça ne prend pas en compte certaines pollutions qui faisaient quand même pourtant déjà l'objet de suivi, des pollutions agricoles, métalliques, salines, chimiques, radioactives. Et ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des acteurs, évidemment, qui vont chercher à mettre en visibilité des réalités qui sont ignorées par cette DBO5. Alors c'est qui ? Ben, c'est le cas des industries agroalimentaires qui vont promouvoir d'autres critères comme la pollution chimique, la demande chimique en oxygène et la pollution solide qui renvoie à d'autres industries, à d'autres pratiques industrielles, en particulier celle de l'industrie chimique. Et c'est aussi le cas des gestionnaires de la pêche fluviale et d'instituts de recherche qui promeuvent un autre indice, l'indice biotique, parce qu'ils sont soucieux de pouvoir administrer la preuve de la mortalité piscicole dans le cadre de procès. Et donc cet indice biotique, c'est quoi ? C'est les macro-invertébrés qui sont présents dans l'eau, qui sont plus ou moins sensibles à la pollution. Okay ? Donc, ensuite, après l'adoption de la loi de 64, on va avoir aussi beaucoup de négociations qui concernent à la fois les principes d'arbitrage entre usages, la hiérarchisation des rivières, le taux de redevance, le statut juridique des objectifs de qualité de l'eau. Et le résultat de ces négociations, c'est quoi ? C'est qu'on a des objectifs qui ne sont finalement pas fixés par décret, mais qui sont plutôt définis de manière plus subsidiaire dans les comités de bassin et qui ne sont pas opposables aux tiers, et un principe de juste retour des redevances par catégorie d'usagers et par zone. Donc les redevances sont réaffectées dans les zones où elles ont été prélevées. Et les rejets amont vont être plus taxés que les rejets aval, parce qu'au niveau des parties aval des rivières, on va fixer des objectifs moins contraignants. Et les rejets dans les zones côtières sont très peu taxés. On a aussi des arbitrages sur les taux de redevances qui sont favorables à l'industrie chimique, qui a un fort pouvoir de lobbying. Et finalement, on a un poids double des redevances aux activités génératrices de DBO par rapport à celles qui génèrent de la DCO. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, de ce système un peu de métrologie, de construction d'indicateurs qui se déploie après la loi sur l'eau de 64 ? C'est qu'on a un objectif comptable, donc, hein, de répartition de l'effort de dépollution. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Surtout les zones les plus polluées, hein, dans des unités que sont les bassins versants, c'est les points noirs. Qui fait ces mesures ? Ce sont les personnels techniques des laboratoires des services régionaux de l'aménagement des eaux, des directions régionales de l'agriculture. Ces services, c'est les SRAE, seront ensuite intégrés dans les DIREN en 91, DIREN qui deviendront les DREAL en 2010. Ces fonctionnaires, ils conduisent plutôt des analyses locales qui ne sont pas vraiment normalisées. Et la première forme d'harmonisation, elle date de 1987 avec la création du réseau national de bassins, complété ensuite par des réseaux plus locaux, soit à l'échelle des bassins, soit à l'échelle de sous-bassins, qui sont gérés plutôt par des collectivités territoriales. Et donc les indicateurs des agences, ils se fondent surtout sur la DBO, la DCO, les matières en suspension et le débit des cours d'eau, parce qu'on a ce travail un peu de commensuration entre enjeux qualitatifs et quantitatifs autour de la capacité auto-épuratoire et de dilution des cours d'eau. Et les caractéristiques finalement de ce système, c'est que on a un niveau local qui est privilégié pour négocier les principes d'arbitrage. On a une forme quand même de naturalisation du transfert des pollutions domestiques dans l'eau et une sous-estimation de la pollution des rejets toxiques et des pollutions agricoles. Donc, vers la DCE et l'atteinte du bon état. Donc, entre 1975 et les années 90, on a une complexification des indicateurs qui vont être disponibles et mobilisés. Au niveau européen, on a plusieurs directives sectorielles. Un système de mesures harmonisées à l'échelle européenne qui est encore strictement limité aux eaux brutes destinées à la production d'eau potable. Et dans les années 90, on assiste, alors bon, je rentre pas dans le détail, mais à une remise en question de cette approche par usage, finalement, qui a prévalu jusqu'alors, au profit du fonctionnement écologique de tous les cours d'eau. En France, ce sont les hydrobiologistes des agences de l'eau, des DIREN, qui promeuvent le passage de cet inventaire national de la pollution, hein, dont je... Qui avait démarré en 71 au départ avec une fréquence quinquennale puis annuelle, vers ce qu'on appelle le système SECO, le système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau. Et donc là où on a une composante eau, une composante hydromorphologie, une composante biologie. Et donc dans ce système SECO, on va retrouver les écarts aux normes d'usage, qui sont les indicateurs physico-chimiques et bactériologiques qui sont déjà en cours depuis longtemps, et aussi la question des potentialités biologiques des cours d'eau. Et déjà on voit la notion d'état de référence que les hydrobiologistes défendaient depuis les années 70 sans succès et qui va préfigurer la notion de bon état qu'on retrouve dans la directive cadre sur l'eau. Ce système SECO, il est utilisé pour élaborer les SDAGE après la loi sur l'eau de 92, donc de 96, et il est présenté dans les forums européens. C'est-à-dire qu'en fait, la décennie 90, elle se caractérise par un moment un peu quand même des fusions de circulation de modèles qui préfigurent la DCE. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas voir les directives européennes comme quelque chose qui vient s'imposer sur les territoires nationaux ou locaux. Il y a quand même des phénomènes un peu de co-construction auxquels les acteurs français, entre autres, ont contribué. Et donc en Europe, on a aussi dans les années 90, on commence à zoner les eaux de manière, enfin de manière plus harmonisée, qui sont menacées par les nitrates, puis par l'eutrophisation, et donc proposition de cette directive cadre sur l'eau. Donc là, je passe les négociations sur la DCE, mais au niveau de la mise en œuvre, donc qu'est-ce que ça demande ? Ça demande de définir des unités élémentaires, que sont les masses d'eau. Et donc j'y reviendrai. Qu'est-ce que ça change de parler, de penser en termes de masses d'eau par rapport au bassin, à des états des lieux et à la définition de programmes d'action, rapportage et évaluation. Hein, on est de plus en plus dans une logique d'évaluation et de question de l'efficacité des actions qui sont menées. Donc les masses d'eau, elles doivent être homogènes du point de vue des pressions et groupées par type selon des écorégions définies par des caractéristiques naturelles. L'état des masses d'eau, il est défini selon le paramètre le plus déclassant. Alors, on se rend compte qu'il y a tout un tas de paramètres physico-chimiques qui font référence aux normes d'usage en vigueur et aussi des paramètres écologiques qui font référence aux masses d'eau non dégradées du même type. Et là, donc, on a des nouveaux indicateurs à construire. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le détail des préconisations de la directive, du texte de la directive, la mise en œuvre, elle a offert pas mal de marge de manœuvre, en particulier sur la question des unités de mesure. En fait, des analyses ont montré qu'il y a eu des pressions des ministères en charge de l'eau de tous les pays, en fait, auprès des comités d'experts chargés de l'inter-étalonnage. Et le résultat, c'est qu'on voit qu'on a limité les biais, en fait, des données entre pays, mais que la métrique nationale reste encore un passage obligé, finalement. Dans le choix du nombre et de la taille des masses d'eau, si on prend le cas de la France, le ministère de l'Environnement, au début des années 2000, promeut de petites masses d'eau. Parce que ce qu'il veut, c'est construire une évaluation indépendante des agences. C'est un contexte, on est dans un contexte en fait de critique assez forte de l'efficacité des agences. Ce qu'il faut voir, c'est que les agences, elles ont un budget qui est 10 fois supérieur à celui de leur ministère de tutelle. Et que, on l'a vu dans ce que je vous ai raconté un peu autour de ces questions de choix, de critères et d'objectifs de qualité, c'est que ça s'est défini de manière assez subsidiaire, finalement, à l'échelle des grands bassins. Et donc, du coup, les agences, elles peuvent, par rapport à la question de ce matin, elles peuvent dire, ben, par rapport à nos critères, on a une certaine amélioration de la situation, mais par contre, il n'y a pas vraiment de capacité à évaluer l'efficacité de l'action des agences. Et donc ça, c'est assez critiqué. Et donc, du coup, le ministère promeut des petites masses d'eau, qui, du coup, en fait, changent de l'échelle du bassin. Et donc ça va avoir pour effet de redéfinir les systèmes de suivi et les unités de gestion. Mais ce nouveau découpage, il rend visible le risque de non-atteinte du bon état pour beaucoup de masses d'eau. Du coup, après, il y a des renégociations pour redécouper. Et finalement, on se retrouve avec des masses d'eau très petites à l'amont et plus grandes à l'aval, c'est-à-dire des petites masses d'eau en bon état qui vont compenser des grandes en mauvais état pour respecter des engagements en pourcentage de masse d'eau, surtout qu'avec le Grenelle, en fait, l'État politise ces questions-là comme un enjeu en fait, d'ambition écologique et ça engage à limiter le nombre de masses d'eau fortement modifiées et le nombre de masses d'eau dont l'atteinte du bon état pourra être reportée à 2021. Mais là, du coup, il faut quand même gérer la question des effets pour conjurer le risque de non-atteinte de bon état. Et du coup, ça se traduit par une hausse des redevances et qui est essentiellement portée par les usagers domestiques. Donc, ce qu'on observe, en fait, à partir des années 2000, c'est une exigence de certification des analyses qui est accrue. Et seuls les gros laboratoires peuvent l'offrir. On a cette exigence qui est généralisée au niveau européen en 2009. Et on assiste à une disparition progressive des petits laboratoires municipaux, départementaux et privés qui dominaient en 1971. Les laboratoires de chimie, par exemple, des DIREN sont fermés en 2005. Et on a une multiplication par 10 des données de surveillance. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'interprétation des résultats, elle est réalisée par des spécialistes du traitement des données, qui ne connaissent pas toujours le contexte des stations de chaque masse d'eau. Donc on a un changement assez fondamental dans la manière dont on suit les choses et dans la manière dont on va juger que les choses vont bien ou vont mal. C'est ça que je vais essayer de vous communiquer. Donc on a une métrologie qui s'est étendue à tous les cours d'eau autour d'une unité qui est la masse d'eau. Alors, quand même, il y a une limite à ça, c'est que plus de la moitié des masses d'eau en France ne sont pas indépendantes, mais situées en cascade, et les altérations, elles vont en se cumulant. C'est plus les SRAE, ce sont des laboratoires accrédités, et aussi l'ONEMA, c'est-à-dire qu'en fait, dans ces débats entre le ministère de l'Environnement et les agences de l'eau, on a eu quand même une recentralisation de cette question du suivi à l'échelle nationale, avec une surveillance normalisée. autour d'indicateurs que sont ceux du bon état des masses d'eau. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a de nombreuses pollutions qui ont été rendues visibles et qui ne l'étaient pas avant. Mais qu'avec aussi la notion de référence et surtout le principe du paramètre le plus déclassant, il n'y a finalement pas de hiérarchisation possible. C'est-à-dire que ce principe, il exclut tout principe d'arbitrage et revient à rendre légitimes tous les usages. Et donc, les possibilités de négociation sont limitées. Et finalement, les questions que je pense ça pose, c'est la question des liens entre surveillance et programmation locale, parce qu'évidemment, les comités de bassin luttent pour conserver la logique du juste retour et ne tolèrent qu'une évolution lente des redevances. Mais comme cela induit un risque de non-atteinte, c'est cet argument qui a servi à augmenter les redevances essentiellement des consommateurs domestiques, dont les représentants sont plutôt minoritaires dans les comités de bassin. Et ce sont eux, à nouveau, qui supportent finalement le nouvel effort environnemental. Et les questions qui restent en suspens, c'est la capacité de ce nouveau système à renforcer la police de l'eau ou la police administrative plus largement. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce que je vous ai raconté, on pourrait avoir l'impression, en fait, d'une recentralisation de ces choses-là. Mais en fait, c'est plus complexe parce que, par exemple, la loi sur l'eau aussi de 2006, elle a donné aux commissions locales de l'eau, et donc à un échelon très local, une capacité de production réglementaire, c'est-à-dire qui est censée s'appliquer à la police de l'eau. Donc, on voit bien que ces changements, ils ne vont pas que dans un sens, et qu'en fait, c'est plus complexe. C'est quelque chose qu'on a analysé dans le cadre d'un projet de recherche récent. Est-ce que ça va permettre, en fait, de renforcer la réduction des rejets à la source ? Et là, ça pose la question de savoir sur qui pèse le fardeau moral, la charge réflexive, les producteurs, les consommateurs, qui il s'agit de discipliner, les usagers, les filières de production, ou encore la pluie qui tombe avec les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Par exemple, donc, on a une remise en cause du tout à l'égout, avec la promotion des techniques alternatives, noues, fossés, tranchées, etc. Une remise en cause aussi des pratiques quotidiennes, qu'elles soient ménagères, cosmétiques, les médicaments humains et vétérinaires, carburants, textiles, pesticides, plastiques. En Rhin-Meuse, par exemple, on a un collectif de médecins qui s'est engagé, en lien avec le conseil scientifique du comité de bassin, dans une réflexion pour davantage prendre en compte les effets sur le milieu aquatique de leurs pratiques de prescription médicale. L'ONEMA, qui est devenue AFB, Agence française de la biodiversité, avec les agences de l'eau, ont financé plusieurs projets pluridisciplinaires en France autour de la question des micropolluants dans l'eau. Et donc, il y a un travail d'analyse, microbio, etc. Et puis aussi un travail sur les questions des innovations techniques qui peuvent être développées et aussi qui mobilise les sciences humaines et sociales autour des questions de changement de pratique dans le milieu professionnel, l'espace public ou à la maison. Par exemple, à Lyon, il y a un projet sur les eaux pluviales. À Strasbourg, des collègues dans mon labo ont été impliqués dans le projet Lumio avec l'Eurométropole de Strasbourg sur les pratiques ménagères. Ils ont étudié les représentations du cycle de l'eau urbaine, du tout à l'égout, et ont cherché à définir les intentions de changement de pratique. Et ce travail, il a mis en évidence la faible connaissance du cycle de l'eau urbaine, du terme micropolluant, ce qu'il recouvre ou leurs effets, l'importance de l'accès à des filières qui produisent ces produits. Et aussi, on voit que les personnes, elles ont besoin, elles insistent sur le besoin d'avoir des indices que ces produits permettent de faire ce qu'on considère comme étant un bon ménage, c'est-à-dire que ça pue pas, que ça reste propre. Et on voit encore quand même derrière un attachement à la lutte contre les microbes dans la pratique ménagère qui peut limiter l'adoption d'un ménage au naturel. Et d'ailleurs, mes collègues n'ont pas vraiment trouvé de référence, par exemple, à des travaux qui diraient ben, finalement quels sont les microbes qu'on trouve dans les maisons qui sont nettoyées avec du savon noir ou du bicarbonate. Et alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est que dans ce que disait Laurent ce matin, que après les années, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a eu ce médecin hein, qui, en fait, avait corrélé quand même les problèmes. C'était juste avant. Ah non, moi, je parle de quelque chose qui s'est passé plutôt dans les années 40, quoi. Bref, bon. Et où on voit, en fait, que la javel, la croix, elle était d'abord prescrite, en fait, par les médecins, dès qu'on voyait qu'il y avait dans la maison une des personnes qui était contagieuse, en disant, bon, mais là, il faut vraiment quand même désinfecter, etc. Et que c'est une pratique qui s'est généralisée et de laquelle il est peut-être pas facile de se défaire. Et la question se pose de savoir, est-ce qu'il faut vraiment s'en défaire après ? Voilà. Donc, merci.
Merci beaucoup. Alors, il y a eu une petite incompréhension sur la construction du programme. Donc, moi, j'ai pas de présentation formelle à vous présenter. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez le programme sous les yeux, mais je suis professeur de microbiologie à l'Université de Poitiers, donc je peux intervenir sur les micro-organismes dont on vient de parler, mais qu'on a aussi évoqué un petit peu ce matin. Bon, même si je n'ai pas de présentation, en quelques mots, ce que je peux dire, ça a déjà été un peu évoqué ce matin, c'est que finalement, les problèmes d'infection due à des micro-organismes par l'eau sont extrêmement limités. Laurent en a cité quelques-uns ce matin. Dans les pays industrialisés, on voit à peu près toujours les mêmes micro-organismes qui reviennent. Il y en a 4 ou 5, là encore, qui ont été cités ce matin. Donc Giardia et Cryptosporidium, par exemple, qui sont deux protozoaires. On a quelques virus, dont les norovirus dont a parlé aussi ce matin. Et puis du côté bactéries, on a Campylobactère qui est le plus retrouvé dans les épidémies dans les pays industrialisés, encore une fois. Mais comme je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, notamment en termes de microbiologie, si on regarde au niveau mondial, c'est totalement différent. Et là, ça devient catastrophique. Vous avez entendu le chiffre tout à l'heure, donc de 700 enfants qui décèdent par jour de moins de 5 ans dû à une eau contaminée par des micro-organismes. Et donc là, si on regarde la situation au niveau mondial, on est plus du tout ni sur la même échelle, ni sur la même problématique. Dans certains pays, c'est évidemment la cause principale de mortalité, alors pas uniquement due à l'eau, hein, mais les maladies infectieuses en général. Voilà, donc avec certains micro-organismes dont vous avez déjà entendu parler probablement, bon, voilà, le choléra par exemple, pour en citer un seul. Voilà ce que je peux dire très très rapidement sur la partie microbiologie de l'eau, mais encore une fois, s'il y a des questions dans ce domaine-là, on pourra essayer d'y répondre. Voilà, donc on peut peut-être lancer la discussion.
J'ai juste
dès maintenant
une observation sur ce volet-là, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de risque microbiologique dans l'eau et que tout va bien, et que donc on peut se permettre des pratiques. Alors je pense justement à l'utilisation d'eau non potable à l'intérieur des habitations, qui sont très dans la... comment dire, dans le mouvement sociétal qu'on connaît aussi. Et je pense qu'il y a quand même une vigilance particulière à garder sur ce côté-là, parce que ça reste un risque important qui doit être maîtrisé et qui ne doit pas être oublié. Même si, bien entendu, toute recherche doit être développée par rapport aux nouveaux enjeux émergents, et notamment à tous les questionnements qu'on peut avoir autour des perturbateurs endocriniens. Moi, je pense qu'on ferait vraiment une erreur en oubliant que ce risque est un risque direct et que vraiment, il faut le maintenir. On entend de plus en plus parler de distribuer de l'eau sans chlore, justement d'installer des eaux non potables. Moi, je pense qu'il faut quand même être prudent.
Je pense, bon, rapidement, puis après je peux laisser la parole, je ne sais pas si Laurent voulait répondre, mais je suis tout à fait d'accord, et c'est assez simple quand même de faire ce constat quand on regarde dans des pays qui sont un petit peu moins bien fournis en termes de traitement, d'hygiène, on voit bien les problèmes que ça pose. Et puis si on regarde d'un point de vue historique, il y a aussi des exemples, pour le coup là en France ou dans les pays européens, qui ont fait des milliers de morts. Et oui, actuellement c'est contrôlé, tant mieux. C'est extrêmement bien contrôlé. Il y a très peu de problèmes, quelques diarrhées, et c'est principalement ce qui se passe. Mais oui, le risque est pas... Enfin, la bataille n'est pas gagnée. Hein. Les micro-organismes sont là. On sait bien pour d'autres raisons. On n'a pas parlé de résistance aux antibiotiques. Je pense que c'était un peu décrit dans le programme, mais ça sort un petit peu de la thématique. Oui, il faut rester extrêmement vigilant sur cet aspect-là, je pense. Oui. Peut-être avec le micro d'abord.
Vous voulez intervenir là maintenant ? Oui, non, mais par rapport au plan de gestion, justement, dont vous parlez des risques sanitaires, dont parle l'ARS, je voudrais souligner d'autant plus, j'étais intervenu ce matin déjà pour, mais histoire d'enfoncer le clou, dans ces plans-là, on doit prendre en compte beaucoup plus la possibilité de boiser une partie des périmètres de protection rapprochés, des captages d'eau potable, parce que la végétation, ça coûte, ce que je disais, beaucoup moins cher qu'une usine de traitement. Et bien, via le phénomène qu'on appelle la phytoremédiation, ça permet de solutionner pas mal de problèmes. Les végétaux sont capables de casser les molécules chimiques, y compris de métaux lourds, à l'intérieur de leur organisme, et soit de les stocker, soit de les redistribuer dans l'écosystème, mais avec une toxicité infiniment moindre. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement. Malheureusement, c'est une solution qui est très peu adaptée encore à l'heure actuelle en France en particulier. Ça se fait en Allemagne, ça se fait même aux États-Unis, qui ne sont pas des parangons de vertu écologique. On est bien en retard par rapport à ça. Juste deux, trois petites réflexions par rapport à l'ARS. Je me rappelle que l'ARS, il y a peu de temps, avait émis un avis défavorable, heureusement, ça me fait plaisir, sur les programmes de création de réserves de substitution destinées à l'irrigation agricole. Je ne sais pas si l'ARS sera écouté, mais tout ça va passer au tribunal dans pas longtemps. Les 40 bassines de réserves de substitution sur le bassin du Clain dans la Vienne. L'ARS avait émis un avis défavorable en raison des risques bactériologiques sur le stockage de l'eau. Donc ça, c'était important qu'il puisse le faire. Sur les agences de l'eau, par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, on voit quand même une certaine tendance à pervertir un petit peu le rôle des agences de l'eau en les obligeant de financer une partie des réserves de substitution, alors qu'à l'origine, les agences de l'eau, elles n'étaient pas faites pour ça. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Et puis, une observation très rapide. On a des outils, on a des compétences, on a des lois qui sont relativement bien faites. Et puis après, il y a la dichotomie entre ça et l'application et la politique, l'application qu'on fait de ces outils et de ces compétences-là. L'illustration, c'est le barrage de Caussade, Lot-et-Garonne, hein, où la FNSEA, la Confédération paysanne, viole la loi sur l'eau, viole la loi sur la destruction d'espèces protégées, viole deux arrêtés ministériels qui ont interdit la construction de ce barrage destiné à l'irrigation agricole ne respecte pas l'abrogation d'un arrêté préfectoral qui, au départ, avait donné une autorisation. Donc il se passe des choses invraisemblables avec un abandon total de l'État qui dénie les outils que lui-même a mis en place. Donc ça, c'est juste pour que, si les gens ne le savent pas, il se passe actuellement des choses en matière d'eau qui sont quand même assez graves, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, des outils et des réglementations qui sont mises en place. Et c'est bien dommage, parce que quand je vois la politique remettre à plat et à néant les efforts qui sont faits par les uns et par les autres, c'est assez problématique.
Merci. Alors, je reviens un tout petit peu à une question donc pour Yann et Madame Fernandez. Déjà, avant, j'étais assez d'accord avec la position de l'ARS, qu'effectivement, je pense que tous ces usages un peu promus, d'usages un peu alternatifs de l'eau, au grid, etc., ça a quand même besoin d'être très encadré. Je pense que les gens ont effectivement perdu, comme on a un peu éliminé le risque bactérien, les gens ont un peu perdu de vue que c'était quand même problématique. Je modulerai un tout petit peu ce que j'ai dit ce matin. Si effectivement on n'a plus de phénomènes d'épidémie ou quand elles arrivent, elles sont très bien marquées, les effets à bas bruit, les gens qui probablement meurent parce qu'ils ont une petite infection et qu'on a du mal, il y a des estimations qui montrent qu'on a probablement une certaine mortalité. Enfin, c'est bien estimé aux États-Unis qui est liée à des distributions d'eau qui ne sont pas toujours parfaites et qu'il est probable que Cryptosporidium aegyardia, sans qu'on ait vu d'épidémie, soit responsable de un certain nombre de cas et de décès aux États-Unis. Alors, une question, et pour revenir à notre présentation, c'est très intéressant ce développement de la directive 4 sur l'eau. Je m'étonne toujours, et je n'ai pas d'explication, et peut-être que vous l'avez, pourquoi l'aspect microbiologique et finalement l'aspect santé humaine est totalement oublié. C'est une sorte d'angle mort de la DCE. On sait tous, enfin, comme on l'a vu ce matin, ou comme Yann leur disait, que le risque principal de l'eau, c'était qu'on ait une contamination par des micro-organismes. On sait que nos bases d'eau se sont dégradées parce qu'il y avait des pathogènes et donc des rejets humains dangereux qui étaient dedans. Et jamais, à aucun moment, finalement, l'Europe, quand elle a décidé de faire le bon état écologique, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y avait cette contamination qui se développait. Et l'autre angle mort, mais qui est aussi important, c'est que finalement, on a le développement de bactéries environnementales, enfin, des cyanobactéries, par exemple, qui seront problématiques pour la production d'eau potable et qui n'ont pas du tout été abordées dans le centre de ces DCE, qui est finalement plutôt une demande environnementale que liée aux usages de l'eau pour les humains. Alors, est-ce que c'est une décision qui était faite exprès, en espérant qu'il y ait une deuxième volet qui soit jamais sortie, ou est-ce que c'est un oubli, ou est-ce que c'est parce que les gens qui militaient là-dedans étaient différents? Je ne sais pas. Enfin, vous avez sûrement une vision ou une explication à nous apporter. Merci.
Bon, alors du coup, je, enfin, dans quel ordre je choisis? Bon, je réponds d'abord peut-être à la question sur finalement les relations entre la directive cadre et l'AEP, quoi. Bon, je pense que ça, là encore, on a le produit d'une catégorisation des affaires d'eau, qui est elle aussi historique, qu'on retrouve en France, et je pense que ce serait intéressant de voir, mais à mon avis, dans quand même pas mal de pays européens, en tout cas, qui est la distinction entre petit et grand cycle de l'eau. Alors là, c'est avec un anachronisme, parce que ces termes-là, ils sont contemporains. Mais quelque part, ce que je vous racontais très brièvement au XIXe siècle, on voit bien que quelque part, on a dissocié les deux grâce aussi au génie chimique, c'est-à-dire en disant finalement, on va pouvoir traiter l'eau, quelque part, quel que soit l'état de l'eau brute, et donc on distingue un peu ces deux systèmes. Et d'ailleurs, ça se traduit, alors je fais un détour là, mais parce que ça renvoie, je trouve, aux discussions qu'il y a eu ce matin et aux tentatives de répondre à finalement l'eau, est-ce qu'elle est un bien comme un autre ? Et on voyait qu'il y avait un peu les deux qui étaient indistinctement mentionnés, alors qu'en fait, alors ça aussi, ça peut se discuter, mais en tout cas, en termes de type de bien auquel on a affaire, si on reprend les catégories des économistes entre bien commun, bien public, bien privé ou bien club, en fait, les services d'eau potable, ben, c'est des biens clubs, et l'eau, elle est plutôt un bien commun. Alors après, là encore, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est des choix politiques, économiques, et qui se sont traduits dans des catégories juridiques. Et donc, du coup, ça fait qu'on voilà, on a eu plutôt deux mondes un peu séparés qui interagissent, et qui, de plus en plus, sont amenés à interagir, parce qu'évidemment, la question en fait, de la qualité de l'eau brute, ben, elle devient de plus en plus un problème. Et quelque part, on le voit même, la loi NOTRe et les réformes territoriales qu'il y a derrière, c'est des enjeux pour les communautés d'agglomération de pouvoir contrôler davantage les sources d'eau brute qui sont en général sur d'autres territoires. Enfin voilà, il n'y a pas que ça comme enjeu, mais c'en est un. Voilà, donc la DCE et l'AEP, ben, si on regarde, il y a eu quand même beaucoup de directives sectorielles sur l'eau, d'abord très focalisé sur les eaux brutes destinées à la production d'eau potable et sur la qualité de l'eau potable. Donc je pense que quelque part, il y avait un peu ce côté que ça, c'était... Alors, est-ce que c'était complètement réglé? Sûrement pas, mais qu'en tout cas, c'était pris en charge. Et puis après, c'est vrai que c'est le type d'acteur, c'est-à-dire qu'en fait, on a, dans les années 80-90, des communautés épistémiques dans la recherche, hydrogéomorphologues, hydroécologues, etc., qui commencent en fait à devenir audibles pour tout un tas de raisons. On le voit si, par exemple, on travaille aussi sur la question de la prise en charge du risque inondation. C'est aussi le moment où, quelque part, le paradigme des digues insubmersibles est remis en question, et en disant, mais de toute façon, elles ne sont jamais insubmersibles. Il y a toujours un moment où elles vont être, submergées, et donc, et où se mêlent, en fait, des critères qui sont d'ordre écologique et économique à chaque fois. En fait, c'est quand même ça les caractéristiques de la DCE. Et dans la DCE, ce qu'il faut voir, c'est que donc du coup, on a quand même des paramètres qui intéressent indirectement l'eau potable, puisqu'il y a dans les caractéristiques physico-chimiques de l'état de la masse d'eau, et donc du coup, de chercher à atteindre le bon état, il faut que ce soit une eau brute destinée à la production d'eau potable. Donc quelque part, c'est géré comme ça. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un débat là actuellement sur une nouvelle directive eau potable. Non, c'est ça, hein, voilà. Donc vous voyez, je pense qu'à mon avis, c'est ça une des explications. C'est que là, on est quand même plutôt... Alors, il y a les questions écologiques ont pris le pas, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est d'abord une directive sur l'eau milieu, l'eau ressource, l'eau brute. Voilà, c'est ça.
Et si je puis me permettre, j'ajoute une question sur les normes. Vous avez montré que les normes de l'ARS se basaient sur celles de l'OMS, qui date de 2011.
Oui.
Et par rapport à ce qu'a dit Robert Barouki, et puis qui a été soulevé sur justement les risques de perturbateurs endocriniens, comment ces normes se construisent-elles? Comment est-ce qu'elles évoluent? Comment elles risquent d'évoluer? Alors là, ce serait, je ne sais pas s'il y a une histoire de la construction des normes liées à l'eau, mais c'est...
Oui, on peut imaginer que la nouvelle directive sur l'eau potable...
Oui, enfin, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre complètement à la question, mais c'est vrai que dans la construction, c'est les recommandations de l'OMS principalement qui sont prises en compte par la Commission européenne pour établir les projets de directives qui après sont discutés alors, avec les États membres, avec le Parlement européen et autres. Mais c'est vrai que voilà, le consensus se fait au départ sur le travail principalement de l'OMS sur des valeurs toxicologiques qui sont établies. Alors après, moi, c'est pour ça que ça m'a paru important d'ouvrir aussi le débat sur le plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux, parce que pour moi, et c'est l'une des réponses à la complexité qu'on a vu d'ailleurs, faut de plus en plus avoir des approches systémiques et transversales pour réussir à traiter des problèmes qui sont complexes. Et là, le fait de dire en fait, il faut dans tous les cas remettre en cause en continu ces pratiques pour améliorer les choses et justement pour mieux connaître la ressource qu'on a à traiter et pour voir ce qu'il faut mettre en place. C'est l'une des réponses. Après, moi, il me semble aussi que malheureusement, c'est normal qu'il y ait un décalage entre la recherche et puis la norme. Oui, parce qu'on ne peut pas fixer une norme sur quelque chose. Un fait qui n'est pas totalement établi, ce qui fait que pour moi, les pouvoirs publics, dans ce contexte d'incertitude, ils doivent mener au moins deux actions. Appliquer, bien sûr, la réglementation telle que avec le plus de discernement et de le mieux possible, et puis aussi avoir d'autres types d'actions qui peuvent être inspirées du principe de précaution, et notamment si on reprend la question des perturbateurs endocriniens, pour lequel c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a quand même un certain nombre de choses que l'on sait, notamment sur la fenêtre d'exposition. On sait que les 1000 premiers jours depuis la conception, donc jusqu'aux 2-3 ans du bébé, sont une période où la vulnérabilité est la plus importante. On sait aussi que les jeunes bébés sont dans un environnement, dans un espace clos pendant les premières années de leur vie. Je vois ce qui a été. Nous, ce qu'on propose comme élément de réponse au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, c'est de se dire c'est une question qu'on ne maîtrise pas, mais déjà, on a cette population sensible. On sait que les risques chimiques qui sont dans l'environnement, c'est ceux qui sont dans l'environnement de l'enfant en bas âge qui sont d'abord à cibler. Donc, on cible une politique de promotion de la santé vis-à-vis des femmes enceintes et des professionnels de la petite enfance. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions des perturbateurs endocriniens dans d'autres milieux. Mais je pense que il faut adapter nos politiques en fonction de des résultats de la recherche.
Juste pour compléter, la part eau est estimée en gros à 10% de l'exposition, souvent, quand on fait le calcul de risque. Je pense que c'est un élément important à prendre en compte. C'est qu'on n'est exposé que pas par l'eau, mais 90% du temps par d'autres. Parce qu'on mange.
Peut-être pour juste compléter sur la question des normes, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est passé quand même de beaucoup de normes d'émission, plutôt des espèces d'obligations de moyens, à des normes qui renvoient plutôt, en tout cas, au niveau des. On va dire de l'eau brute, pour parler du point de vue de l'eau potable, de résultats sur le milieu, en fait. Et c'est ça, en fait, quelque part, qui se joue avec le bon état. Mais après, ceci dit, c'est sûr que la question de la... Et c'est pour ça que je vais faire un lien avec votre remarque tout à l'heure sur la question des bassines. C'est que le lien à un état de référence, et ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est dans la DCE, mais qu'aussi, il travaillait, en fait, tout un tas d'acteurs en France. Alors après, on peut évidemment débattre, mais... et qui est plutôt porté par des hydrobiologistes autour de cette idée de dire qu'il faut quand même avoir une référence qui serait un système qui soit le moins perturbé possible et que c'est ça, en fait, qui constituerait quand même un horizon à avoir. Mais on peut avoir aussi un retravail politique de la notion de référence, et un très bon cas pour ça, c'est le sud-ouest et le bassin Adour-Garonne avec les débits d'objectifs d'étiage, ou quand vous disiez les agences de l'eau, elles sont perverties parce qu'elles financent les bassines. Alors c'est sûr qu'on peut vraiment poser la question de savoir si les agences de l'eau doivent financer des bassines, mais c'est pas nouveau en fait. Et déjà, ces débits d'objectifs d'étiage dans les années 1990, quelque part, c'est une forme de compromis en disant on va faire référence à l'hydrologie naturelle, parce que derrière, c'est une manière de créer des compromis et d'avoir des promesses contradictoires. Une promesse, en fait, de nouveaux ouvrages pour les irrigants au nom du soutien d'étiage, puisqu'on a un moindre soutien du ministère de l'Agriculture et que ce n'est plus des politiques sectorielles qui vont pouvoir financer ces ouvrages. Et en contrepartie, l'Agence de l'eau, elle essaye d'enrôler ses irrigants en disant, mais dans ces cas-là, il faut respecter des objectifs de débit dans les cours d'eau, etc. Et pour les porte-paroles de l'environnement qui sont au comité de bassin, c'est une promesse de contraintes plus fortes sur les prélèvements. Mais dès qu'en fait, la décision, elle doit être prise de savoir si, du coup, en fonction de ces débits d'objectifs d'étiage, finalement, on restreint les prélèvements ou on construit de nouveaux ouvrages, eh ben, la situation, elle se retend. Ça a été le cas de Sivens, ça a été le cas dans les exercices de prospective et qui avait été mené la Garonne 2050. Et donc, on voit bien qu'il y a cette question qui est jamais vraiment résolue et que du coup, ces bassines, elles apparaissent aussi dans les années 90 comme une alternative parce que les grands barrages, ils sont devenus trop controversés. On ne peut plus les construire aussi facilement. Et donc, du coup, il y a cette idée que si c'est des petits réservoirs, ben, finalement, ce serait moins problématique pour l'environnement et surtout moins conflictuel. Et en fait, c'est évidemment toujours aussi problématique par rapport à la circulation de l'eau et conflictuel. Donc voilà, l'hydrologie naturelle reconstituée, ah oui, c'est ça que je voulais dire, parce que l'hydrologie naturelle reconstituée, c'était un peu cette idée que si on fixait des objectifs de débit très élevés dans les cours d'eau, là au moins on allait pouvoir trancher en fait. Et après, moi j'ai travaillé sur le bassin de la Garonne, mais aussi sur d'autres bassins, et où quand en fait on ne peut pas construire d'ouvrage, bah, du coup on a abaissé les objectifs de débit. Voilà. Donc on a abaissé les objectifs de débit. Mais le problème, c'est que quand on a fait référence politiquement à l'idée de débit naturel reconstitué, on ne peut pas le faire partout et de manière systématique. Et c'est là où le changement climatique arrive dans le jeu. Et là, on dit, bah, puisque le climat va changer, on va pouvoir, de toute façon, le régime des cours d'eau change. Et du coup, ça devient légitime d'abaisser les objectifs de débit. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas la question de la qualité des méthodes intrinsèques d'évaluation de ces débits d'objectifs d'étiage. Évidemment, c'est des bons modèles hydrologiques, c'est des bons modèles hydrauliques. Mais ce qui est important, c'est que de voir que ces indicateurs, c'est ce qu'on appelle un peu des valorimètres, c'est-à-dire qu'à la fois, ils doivent fonctionner dans le monde de la science, c'est-à-dire être suffisamment crédibles pour dire oui, on dit quand même pas n'importe quoi sur le système, mais c'est aussi des compromis sociaux et politiques, en l'occurrence là pour le partage de l'eau.
Du débit des rivières, l'alimentation des nappes phréatiques aussi, qui ne se fait plus du tout de la même façon. Sur le bassin versant du marais Poitevin, on a même une inversion du sens de circulation des eaux souterraines. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de l'eau de source qui coule vers l'eau de mer, c'est l'eau de mer qui coule maintenant vers l'eau de source, à l'échelle d'un bassin versant qui fait plus de 95 000 hectares. On a donc des problématiques énormes qu'on ne connaissait pas dans les années encore 1990. On n'avait pas encore totalement cerné le problème et on ne s'était pas encore vraiment rendu compte de la menace du changement climatique. Pour ça aussi que ces histoires de partage, elles sont, voilà, je veux dire, on pensait effectivement que ça pouvait résoudre un certain nombre de choses, et puis on en vient dans des situations de blocage et de conflits très aigus et qui vont, à mon avis, se multiplier dans les années à venir.
Oui, d'ailleurs, parce que maintenant, donc, je suis à Strasbourg, donc dans le Nord-Est, où là, j'arrivais dans une région où a priori les questions de gestion quantitative n'étaient pas aussi centrales. Et il y a eu une première demande récemment pour le développement d'un système d'irrigation collectif. Enfin, il y a déjà de l'irrigation, mais plutôt individuelle en nappe. Et cette question-là, elle va, enfin, voilà, après, alors, c'est-à-dire que de quelle adaptation, est-ce que c'est de l'adaptation, de la maladaptation ? Voilà. Voilà. Ah oui, si, il y avait peut-être pour revenir à votre question, alors là, encore, on renvoie peut-être historique, là, finalement, cette journée mondiale de l'eau et... de ces chiffres en fait assez, assez problématiques. En fait, quand on regarde la situation mondiale, je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette alerte, elle commence à être donnée dans les années 70. En fait, il y a une première conférence des Nations Unies sur l'eau en 77 à Mar del Plata. Et où on lance, voilà, l'idée c'est de mettre en marche l'aide publique au développement pour justement l'accès à l'eau potable. Et alors là, le modèle dominant, c'est plutôt celui d'une gestion publique. Alors ce qui a été surtout développé dans les pays du Sud, c'est quand même plutôt avec des sociétés d'État. Alors que bon, si on regarde le cas de la France, c'est plutôt des services qui sont gérés par des collectivités locales. Et à partir des années 90, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a tout un tas de rapports de la Banque mondiale qui donnent à voir l'inefficacité, enfin voilà, en gros, que ça va marcher, en fait, qu'il n'y a pas, que le taux de personnes raccordées, la qualité de l'eau ne marche pas. Et donc, du coup, c'est là que vient, dans un contexte d'ajustement structurel et de nouvelles politiques du FMI, l'idée que bah, finalement, ce que l'État n'a pas su faire, le privé saura le faire. Et donc là, on est en 2019 et.
Parmi tous les chiffres, il y en a un qui est intéressant aussi à retenir, c'est que sur la quantité d'eau présente sur la Terre, il y a moins de 1% qui est disponible pour l'homme, d'eau douce, utilisable, sur la totalité de l'eau présente sur Terre. Le reste, c'est de l'eau salée, l'eau inaccessible, etc. Donc ça ne fait qu'illustrer la très très petite quantité d'eau qu'on a à notre disposition et l'urgence de la gérer d'une manière un peu plus intelligente et partagée, quoi.
Mais on commence à la dessaler.
Oui. C'est ce
oui.
On commence pas d'ailleurs, ça fait un moment. Donc,
Oui, oui.
Non, moment, oui. C'est juste dès les années 50, en fait, au moment de l'avènement, on va dire, de l'aide publique au développement, dans un contexte de décolonisation, et donc où se joue une réorganisation en fait des relations entre les pays, et qui va se structurer quand même beaucoup autour de l'aide publique au développement. Et ben déjà. Il y a cette idée que le dessalement, c'est un peu le front technologique. Bon, il y avait aussi la pluie artificielle. Ça a eu moins de succès. Mais le dessalement était déjà là, parce qu'il y a toute cette idée. En fait, autour de l'UNESCO en particulier, il y a tout ce travail autour de l'aridité, de la semi-aridité. Et en gros, l'idée de ces pays à la fois en développement ou qui manquent d'eau, et du coup, où ce qu'il faut, voilà, la doctrine de la FAO, c'est développer l'irrigation, mais il faut quand même gérer. Un de ces effets négatifs qui est pour la salinisation là, plutôt des sols, et puis la question de quelle offre en eau et comment on la met à disposition, quoi. Et d'ailleurs, oui, voilà. Allez-y.
Mais là, on parle beaucoup des systèmes d'irrigation partant des rivières avec des captations ou partant de l'eau qui existe déjà. Mais on a aussi évoqué les arbres, mais on évoque assez peu l'ombre et le fait de ralentir l'eau et de prendre soin de nos sols qui sont quand même ce sont eux qui vont être capables de restituer de l'humidité, de recréer de l'ombre et de. Et ça, on en parle un peu maintenant, mais là, on n'a plus le temps. Les informations passent très lentement. Là, tout à l'heure, on évoquait aussi, mais qui doit faire quoi? Tout le monde doit faire quelque chose. Nous, en tant que citoyens, les politiques en tant que politiques, les agences de l'eau en tant qu'agences de l'eau. Mais est-ce qu'il nous reste du temps pour comprendre ça et pour respecter les systèmes très parfaits de la nature qui sont capables de faire beaucoup? Alors il y a des gens qui sont capables de ressemer le désert, peut-être qu'il faut travailler main dans la main avec eux.
Information par rapport aux moyens. Alors c'est un petit peu à côté de tout ce que vient de dire. C'est pas du tout des solutions technologiques. Mais j'étais il y a quelque temps en Inde où le gouverneur de l'État de l'Himalaya Pradesh a donné la personnalité juridique aux montagnes, aux forêts et aux rivières. C'est-à-dire que tout citoyen peut se voir reconnaître le droit de représenter une rivière en cas d'atteinte, de pollution, de destruction, de construction de barrages, etc. Bon, c'est une approche, ça existe aussi en Colombie, en Équateur, en Nouvelle-Zélande. Bon, voilà, c'est un élément de plus de réflexion, mais c'est pas inintéressant, ce genre de choses. Pourquoi pas? Ça peut faire progresser la prise en compte de l'eau et des rivières et des milieux vivants et des milieux aquatiques.
Ben, y a eu une. Bon, moi, c'est clair, hein, que sur cette question des sols, trop longtemps vu comme un support physique, sans vie, etc. Et il y a eu la volonté de faire une directive sol. Et en fait, elle a échoué. Mais ça, je ne sais pas, hein, voilà, qu'est-ce qui s'est opposé comme force. Ouais.
Et c'est vrai, ça, comment vous travaillez sur les risques de pénurie? On parlait du rapport à Climaterra et notamment en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je recentre sur un territoire, mais comment ça envisagé? Alors, la question, je la pose peut-être à l'ARS dans les discussions que vous pouvez avoir avec d'autres institutions.
Alors, l'ARS va bien être embêtée pour vous répondre, voilà. Là-dessus. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est que, enfin, c'est ça, les responsables de production et distribution d'eau, bah, sont forcément sensibilisés à cette question et font des recherches en eau, enfin, des recherches hydrogéologiques. Après, enfin, c'est vrai que c'est un problème d'ampleur et compliqué. Donc, ça doit être un élément pris en compte le plus en amont possible. Après, moi, je n'ai pas de solution à apporter à cette question. D'une façon... un peu parallèle, peut-être que ce qui est organisé pour assurer la sécurisation de la distribution d'eau, c'est-à-dire le fait de regroupement de collectivités, est peut-être aussi un outil intéressant pour réfléchir et mettre en place des solutions sur ce type de problème.
Moi, juste... c'est pareil, je fais un détour, mais tant pis. Sur ces questions de pénurie d'eau, c'est pareil, en fait, il y a eu, donc à partir des années 70, là, quand il commence à y avoir un peu toutes ces réflexions prospectives sur est-ce qu'on va manquer d'eau à l'horizon 2000, on commence à avoir des indicateurs qui sortent à l'échelle globale. Et en fait, se structure une communauté, c'est surtout des hydrologues autour de l'UNESCO, autour de cette idée un peu, au départ, influencée par le rapport Meadows, hein, sur la question des limites, mais qui va être vite retraduit en termes de... Mais finalement, en faisant marginalement mieux et avec de l'innovation technologique, on pourra les gérer, ces limites. Bon, voilà. Et donc, ils font des exercices de prospective, et c'est là que sort l'idée du 1000 m3 par habitant et par an, que vous avez déjà sûrement dû voir... dans les rapports des Nations Unies, c'est-à-dire cette idée, en général, on a le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui rougent. Parce que c'est des pays où on a 1000 m3, on a moins de 1000 m3 par habitant et par an, souvent moins même de 500. Et donc ça, c'est une hydrologue suédoise, c'est important de le noter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, Malin Falkenmark, qui l'avait développée, je pense, dans un contexte très particulier, mais c'est intéressant après de voir la trajectoire politique qu'a eu cet indicateur, parce qu'il est souvent utilisé pour dire, regardez, alors dans les années 80, c'est les risques de guerre liés à l'eau, après c'est... il est remis en question et c'est de dire, mais non, finalement, de toute façon, ce qu'il s'agit, c'est plutôt de fluidifier le marché mondial. Et je pense que c'est quand même toujours important de se poser la question de dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? Et en fait, 1000 m3 par habitant et par an, en fait, Falkenmark, elle avait pris comme référence un pays semi-aride développé, en l'occurrence Israël. Elle avait fait tout un tas d'hypothèses en disant, je sais pas moi, il y a 200 m3 par habitant et par an qui correspondent aux besoins urbains et industriels liés à la personne, industriels au sens large, hein, pour produire les habits, tous ces équipements, etc. Et le reste, 800 m3 par habitant et par an, c'est ce qu'elle... Un équivalent habitant, du coup, dans un autre registre, a besoin pour se nourrir. Et en faisant l'hypothèse que la moitié de l'eau qui était nécessaire pour produire la biomasse qui nourrit la personne, directement ou indirectement via la viande ou elle vient de l'irrigation. Mais quand on dit qu'on a, quand on est en situation de pénurie, si on a moins de 1000 m3 par habitant et par an, déjà, il faut voir que derrière, on a fait quand même des hypothèses très fortes sur ce qu'étaient les régimes alimentaires, sur ce qu'était la part de l'irrigation. Et puis aussi, on fait l'hypothèse que quelque part, en fait, l'eau qui doit servir à nourrir et à fonctionner, elle vient du pays. Et c'est en fonction de ça qu'on définit le manque. Et donc, du coup, au début des années 90, il y a un géographe anglais qui commence à dire, mais ça correspond à aucune réalité, puisque de toute façon, la plupart de ces pays, ils importent
je sais pas, l'Égypte, 80% de ses céréales des États-Unis et du Canada. Et donc, de toute façon, voilà, quelque part, le manque d'eau, il est géré de fait parce que ces pays ont des relations avec le reste du monde, etc. Et donc, du coup, on ne peut plus justifier des politiques hydro-agricoles avec des grands barrages parce que, de toute façon, l'enjeu de ces pays, ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire, parce que, de toute façon, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, on a une évolution du discours vers la notion de sécurité alimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que c'est quand même toujours problématique et controversé parce que, évidemment, après, cette eau virtuelle, elle a été utilisée pour dire, ah ben finalement, il y a des différences de d'efficacité hydrique entre pays importateurs et pays exportateurs. Donc, ces pays qui ne sont pas efficaces, ben, il faut qu'ils importent tout, etc. Et ça, ça marche si on a des hypothèses que les marchés, les céréales sur les marchés mondiaux sont bas, qu'on n'utilise pas les céréales comme un moyen de pression entre pays importateurs et exportateurs, qu'il n'y a pas de crise, ce qui, en 2008, a montré ses limites. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que derrière, en fait, il faut toujours quand même regarder ces indicateurs du manque d'eau, qu'est-ce qui contiennent, qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse derrière et quel type de message normatif ils peuvent porter. Voilà. Et toujours les situer dans des débats à des moments très particuliers. Voilà, le début des années 90, c'est là où il s'agit de fluidifier le commerce mondial, l'OMC, etc., etc., quoi. Donc, voilà.
Bien. Yann, je te laisse le mot de la fin, si tu veux.
D'accord. Bon. Moi, ce que je voudrais dire rapidement, d'abord merci à tous les participants qui sont intervenus. Je pense que la journée était, les intervenants étaient très complémentaires. On a balayé vraiment des parties très très différentes et qui donnent une bonne vision, je pense, du paysage autour de l'eau. Donc ça, c'était très très intéressant. Après, bon, la question de départ, l'eau, un bien comme un autre, je ne sais pas si on avait besoin d'y répondre vraiment, mais certains y ont répondu directement, d'autres indirectement, mais c'est bien évident que s'il y a quelque chose qui est indispensable au monde vivant, c'est bien l'eau. Donc, à l'homme, évidemment, mais pas uniquement, donc c'est évidemment pas un bien comme un autre. Moi, je ne fais pas de droit, mais on a entendu parler de patrimoine aussi tout à l'heure. Je ne sais plus qui a utilisé ce terme-là. Je pense qu'évidemment, on est tous d'accord pour dire ici que ça ne doit pas être traité comme un bien de consommation classique, marchand. Ensuite, différents éléments ont été abordés. Alors après, il y a Les grandes questions qui sont posées à la fin, à la conclusion, quelle eau pour demain, quels grands enjeux pour le 21e siècle. Bon, là, on a évoqué quelques pistes, mais encore une fois, bon, peut-être placerons-nous à l'échelle plus locale française, puisque c'est quand même plus ça qu'on a abordé aujourd'hui. La qualité de l'eau, globalement, elle est bonne. On l'a entendu, je pense que quelqu'un dit pas très bonne, parce que voilà, mais elle est bonne. On a entendu la personne qui travaille au département tout à l'heure, qui est intervenue en disant qu'elle était bonne, mais qu'il y avait quand même des inégalités puis des craintes. Hein. On a quand même entendu des inquiétudes à la fois sur la quantité et sur la qualité de l'eau. Y compris sur le territoire, avec des disparités, évidemment, si on prend différents départements en France, et puis encore des disparités encore plus importantes si on regarde au niveau mondial. Après, on a entendu parler beaucoup de prévention, et encore pour l'ARS, j'ai eu prévenir, anticiper et agir, c'est ça. Donc là aussi, on a entendu ce qui paraît évident, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Donc les actions de prévention sont probablement les actions à privilégier sur les années futures. On en a entendu quelques-unes. Ça a été évoqué assez rapidement, mais malgré tout, la protection des ressources avec la plantation d'arbres, mais peut-être pas uniquement. La limitation des usages. la gestion des conflits entre les usagers, donc voilà, des aspects de prévention qui sont qui paraissent indispensables. Et puis après, des aspects plus sur l'action, sur le traitement, là où on voit que le problème microbiologique globalement est maîtrisé et pourvu que ça dure. Peut-être que les changements climatiques vont aussi modifier les choses à différents niveaux, en termes de qualité, de quantité, et puis peut-être aussi en termes de qualité microbiologique. Il y a demain, toujours dans le cadre des Journées mondiales de l'eau à Mendès-France, demain soir à 18h, c'est ça ? 18h30, une conférence autour de l'eau et des changements climatiques. Voilà, et ça, c'est un point qu'on ne maîtrise pas vraiment. On verra bien. Voilà. Et puis, en termes de pollution chimique, on voit tout le travail qui reste à faire avec toutes les choses qui sont déjà faites. Hein. On l'a rappelé tout à l'heure, deux paramètres microbiologiques qui sont suivis, une trentaine qui sont suivis en termes de chimie, mais avec 150 000 molécules chimiques qui nous environnent, qui peuvent éventuellement avoir des effets et des effets cocktails qu'on ne connaît pas encore peut-être. Voilà, et puis avec une exposition qui paraît maintenant clairement plus importante dans les premiers mois de la vie, ça a été rappelé tout à l'heure, et ça c'est vraiment peut-être un point majeur à prendre en compte. Voilà, je ne sais pas si certains veulent rajouter des choses sur quelle eau au XXIe siècle, mais voilà ce que je pouvais dire rapidement.
Bah, surtout, vous êtes invité demain soir à poursuivre cette discussion. Il y a plusieurs choses. Il y aura aussi les quiz. Il y a des quiz qui sont prévus. Donc, pour prendre, il y a une petite plaquette qui a été faite exprès sur justement les événements autour de l'eau qui ont lieu à Poitiers, Grand Poitiers. Voilà. Merci à tous les intervenants, les intervenantes, les intervenants. Et on va poursuivre cette réflexion-là. Je pense sur l'eau à Mendès-France, c'est quelque chose, une thématique qui nous tient à cœur. Donc, je vous invite à suivre ce programme, le programme des années à venir. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci.